Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui démarre aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale, qui sera un peu plus longue que d'habitude, puisqu'on va avoir l'antenne en direct pendant une heure et demie. Et on a aujourd'hui le très très grand plaisir et l'honneur d'accueillir Loïc Seri, qui est le directeur du centre de recherche de l'Institut du Tout-Monde, consacré notamment à la promotion de l'œuvre d'un très grand écrivain antillais qui s'appelle Édouard Glissant, et qui est Loïc Seri, l'auteur d'une espèce d'œuvre assez inclassable qui est paru aux éditions du Tout-Monde, c'est l'an dernier, me semble-t-il, ou en 2020. Donc c'est assez récent, consacré à l'œuvre de Glissant. Ça s'appelle Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage. Donc il y a actuellement deux tomes qui sont disponibles. Le premier tome est intitulé Rassembler les mémoires, le deuxième Renverser les gouffres. C'est un livre assez hors norme. Alors, je le dis d'emblée parce qu'il est, c'est une mine d'informations absolument incroyable. Loïc Seri est sans doute un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Glissant aujourd'hui. Mais dans ce livre, il n'y a pas que ça. Il y a d'une part, une présentation de l'œuvre de Glissant extrêmement précise, extrêmement informée, mais aussi tout un tas de pistes de lecture, d'interprétation et de propositions de compréhension de l'œuvre d'Edouard Glissant, qui est assez vertigineuse. Donc on est vraiment ravis d'accueillir Loïc ce soir pour nous présenter. On n'aura certainement pas le temps de parler de l'ensemble de ce que tu développes dans ces deux tomes. Il y a un troisième tome qui est à paraître. Hein, ouais. Tu l'as dit, donc sans doute dans quelques temps, qui sera une anthologie, ouais, de textes consacrés à de textes de Glissant. Hein, ouais. Donc qui permet. Alors tu vas nous en parler, bien entendu. Mais je trouve que c'est peut-être pas ce qu'on appelle une introduction facile à l'œuvre de Glissant, mais par contre c'est peut-être le meilleur panorama auquel on peut avoir accès aujourd'hui sur l'œuvre de ce très très grand écrivain Edouard Glissant. Alors peut-être pour commencer, parce que c'est un nom qui peut être familier à certains auditeurs ou pas, hein, parce que Edouard Glissant est à la fois, c'est un auteur qui est à la fois connu et pas connu, en fait, hein, connu et mal connu, peut-être aussi. Mmh. Il est beaucoup mieux connu, tu nous en diras aussi peut-être quelques mots, sans doute aux États-Unis, ah oui, ou auprès d'un lectorat et d'un public anglophone, mmh, qu'en France, hein, ce qui est un paradoxe, puisque c'est un écrivain de langue française, entre autres. Peut-être que pour commencer, le mieux, c'est peut-être que tu nous rappelles un petit peu qui était Edouard Glissant, c'est-à-dire un petit peu qu'on ait une idée un petit peu aussi de sa vie, de son œuvre aussi de manière générale, pour que les auditeurs puissent se rendre compte, mesurer un peu aussi à la fois la personne, hein, qui l'a été, et puis avoir une approche un peu générale de son œuvre. Donc peut-être que Loïc, tu peux commencer par nous dire quelques mots là-dessus, juste avant que tu commences. Peut-être avant tout cela, deux mots sur le morceau qu'on vient d'entendre là en introduction de cette émission, qui est un morceau de Billie Holiday qui s'appelle Strange Fruit et qui a évidemment un sens spécial, qui est un de tes choix ce soir d'illustration musicale. Peut-être si tu peux nous en dire deux mots avant de nous parler un peu de Glissant.
Alors avant toute chose, je suis ravi d'être parmi vous, pour beaucoup de raisons. Et alors, pour commencer en effet sur Strange Fruit, il se trouve que c'est le premier texte en fait qui figure dans l'anthologie La Terre, le Feu et les Vents d'Edouard Glissant, l'anthologie littéraire qu'il appelle l'anthologie du Tout Monde. Et en somme, cette prééminence qu'il a donnée au texte d'Abel Méropol, Strange Fruit, et qu'il aimait particulièrement dans l'interprétation de Billie Holiday, veut tout dire dans cette anthologie de l'importance pour lui, non pas forcément uniquement de la question qu'on peut dire raciale, mais des traces de l'esclavage.
On rappelle, hein, Strange Fruit, ce que ce fruit a d'étrange, c'est qu'il s'agit de la description d'un pendu, plus exactement d'un noir lynché aux États-Unis dans les années 50.
Tout à fait. Edouard Glissant, il était très frappé du fait qu'on pouvait tomber sur, à cette époque-là, sur des cartes postales qui représentaient de manière quasiment touristique, en somme, eh bien, des scènes de lynchage de noirs, c'est-à-dire des noirs qui étaient pendus aux arbres, et puis vous aviez sous l'arbre un couple qui se bécotait, et voilà, c'était normal. Donc pour lui, c'est la violence historique qui est représentée par ça, et c'est une violence totale, et voilà, donc il était très attaché à ça. Il a même eu le souci de transmettre cela à ses enfants. Il faisait écouter à ses enfants cette chanson. Donc il y a toute une histoire, effectivement, du lien entre Glissant et Strange Fruit. Ouais.
D'accord. Et alors, donc, du coup, tu disais le lien, effectivement, qui est lié aussi, du coup, alors, à sa vie.
Tout à fait. Voilà. En deux mots, moi, je vais essayer de faire un panorama biographique pour attirer, finalement, l'attention sur deux ou trois points qui me semblent importants. Glissant, il naît en 1928, et effectivement, il arrive une génération après Césaire. Hein. Césaire, c'est le... on l'appelle le chantre de la négritude, mais c'est effectivement celui qui a participé avec Senghor et Damas, et puis bien d'autres aussi, à l'élaboration du concept de négritude, c'est-à-dire finalement ce que Senghor a défini comme la défense de la civilisation et des faits culturels noirs. Hein. Et lui, Césaire, quand il grandit, il est le fils d'un gérant d'habitation, et qui le reconnaît à l'état civil.
Glissant, hein, tu dis. Hein.
Édouard Glissant, ouais. Oui. Donc il le reconnaît à l'état civil à l'âge de 12 ans, quand il réussit le concours des bourses, le concours d'entrée en 6e. Voilà, et donc il est élevé essentiellement par sa mère, et donc son père est un gérant d'habitation qui a un rôle pour lui assez, assez important en termes de symbolique de la place, dans le système colonial. Du gérant d'habitation, on pourra y revenir parce que ça revient dans son œuvre aussi. Mmh. Alors il grandit, il va intégrer le lycée Schœlcher, qui est finalement à l'époque à Fort-de-France le lycée de l'élite. Dans ce lycée donc colonial, hein, qui est véritablement, c'est vraiment l'enseignement colonial de très haute volée, il faut le dire. Mais c'est effectivement un enseignement marqué par les choses. Et puis à cette époque-là, quand il intègre le lycée Schœlcher, eh bien Césaire vient d'être nommé professeur de philosophie. Donc évidemment, il va être très influencé par cette présence-là. Césaire n'est pas son prof de philo, c'est Aristide Mauger qui est son prof de philo. Mais donc il est un très grand lecteur des Aimé Césaire. Mais c'est simplement dès le lycée Schœlcher, quand il en parle avec ses amis et puis avec le groupe dont il est issu, qu'il a quasiment créé avec ses amis au Lamentin, le groupe du Frangeux, il montre le souci de coller davantage à la réalité antillaise. Donc déjà à cette époque-là, il a une certaine méfiance par rapport au chef de la négritude.
Donc là, on est avant-guerre.
Avant-guerre.
On
n'est pas avant-guerre véritablement, on est dans les années 46.
Donc juste après-guerre.
Voilà. On est en 45-46, ouais. Voilà. Donc il va partir en France pour faire ses études en 46. Il va faire des études d'ethnologie, de philosophie principalement. Et donc il va commencer une activité littéraire qu'il avait déjà débuté un peu en termes embryonnaires en Martinique. Et il va être très lié au groupe. Qui se rassemble en fait autour des lettres nouvelles de Maurice Nadeau, c'est-à-dire Jacques Charpier, Kateb Yassine, Yves Bonnefoy, on peut citer encore Maurice Roche, ce sont des gens qui ont vraiment été très liés à cette époque-là. Alors, il y a un tournant, c'est celui de 58, hein, parce qu'il obtient le prix Renaudot avec la Lézarde.
Avec la Lézarde, bien sûr.
Et la Lézarde frappe énormément à l'époque, parce qu'on n'est pas habitué à cette écriture un peu foisonnante, mais qui surtout pose des questions politiques, mais pas de manière manichéenne, vraiment. Donc, c'est avec beaucoup d'interrogations, plus d'interrogations que de réponses, finalement. Et donc 1956, je reviens un peu en arrière, et très important pour Glissant, parce qu'il va publier deux œuvres marquantes chez lui. C'est un grand poème lyrique qui s'appelle Les Indes, et qui est au même moment, il publie Soleil de la conscience. Voilà, Soleil de la conscience, on le dit généralement, c'est un livre dans lequel, c'est un petit livre, mais dans lequel il y a une telle densité que quasiment tout Glissant y est, c'est-à-dire les interrogations de Glissant, mais ça y est en termes cryptés. Hein, quasiment. Mais je suis sûr qu'on va y revenir parce qu'on revient toujours à Soleil de la conscience quand on parle de Glissant. Pour aller vite par rapport à ces années-là, il y a un point très important, c'est son action politique.
Oui, c'est un militant anticolonial.
Tout à fait. Il épouse vraiment son époque, c'est-à-dire l'époque des décolonisations. En 59, il va rencontrer au deuxième congrès des artistes noirs. Le premier, c'était en 56 à la Sorbonne. Il va rencontrer à Rome, donc au deuxième congrès, Albert Béville, qui va avoir une importance considérable pour lui. Ils vont être très liés. Et Albert Béville, c'est un administrateur colonial qui a une carrière littéraire et qui a un engagement anticolonial très très marqué. Et en littérature, il s'appelle Paul Niger. Et c'est quelqu'un qui publie particulièrement un livre dans ces années-là qui est très important, c'est Les Antilles et la Guyane à l'heure de la décolonisation. Donc vraiment, c'est le mouvement de la décolonisation. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 61, avec un avocat qui s'appelle Marcel Manville, qui est également très, très important pour cette conscientisation anticoloniale à cette époque-là, un Martiniquais, et puis également Conné Marie-Joseph, et Cataillé, Justin Cataillé, ils vont fonder le FAGA. Le FAGA, c'est le front anticolonial, donc en l'occurrence, qui sera interdit par le pouvoir gaulliste en 62, donc l'année d'après. Et Édouard Glissant va être arrêté. et il va être, si vous voulez, mis en résidence surveillée. Voilà.
Et alors à la même époque, tu m'interromps si je me trompe, mais il me semble que cette chronologie-là, tu as parlé de Césaire, mais il y a évidemment la troisième grande figure des écrivains antillais, c'est Fanon.
Oui.
Qui est pas tout à fait de la même génération, qui est un petit peu plus âgé, si je me trompe pas.
À peine. Parce qu'en fait, Fanon, il le rencontre justement quasiment dans les premières années à Paris. Et évidemment, il se lie d'amitié très très rapidement. Il perçoit tout de suite la vélocité intellectuelle de Fanon. Ils ont des discussions en particulier sur ce qu'il appelle le réel antillais. Et Fanon va rester pour Glissant une référence constante. Quand on prend les épigraphes, alors les épigraphes chez Glissant, c'est d'une importance considérable. C'est très très crypté. Quand on prend le discours antillais, qui est son maître ouvrage, hein, alors il y a une épigraphe de Fanon qui permet de comprendre quasiment tout le discours antillais. C'est une tâche colossale que l'inventaire du réel. Et finalement, le discours antillais, c'est l'inventaire du réel antillais. Il s'agit de mettre à plat tout l'assimilation, la négritude, et puis de se dire, il y a un réel qui nous pose problème, on ne sait pas ce que c'est. On va essayer de faire l'inventaire de ça. C'est ça qu'il fait en 81. Et donc j'étais à 62 avec... il y a un drame qui se passe en 62 parce que Paul Niger, enfin Albert Béville, meurt dans un accident d'avion qui fait 173 morts à Pointe-à-Pitre. Et c'est un drame personnel pour Glissant. Il se trouve qu'en 64 qu'il va sortir son maître ouvrage de l'époque en termes de roman, puisque avant il y avait eu la Lézarde, mais c'est vraiment un roman très ambitieux, c'est le 4e siècle en 64. Et le 4e siècle est justement dédié à Paul Niger, à Albert Béville. Et... on va revenir sur le 4e siècle, mais donc pour dire les choses en termes de trajectoire politique, après sa mise en résidence surveillée, il va revenir en Martinique en 65. Il décide de revenir en Martinique et il devient prof de philo au lycée de Bellevue. Et il va créer, parce qu'il trouve que évidemment l'enseignement qui est encore un enseignement colonial, c'est un problème fondamental pour les Martiniquais, et il va décider de créer son institut d'enseignement. En 1967, il crée l'IME, l'Institut Martiniquais d'études, et il choisit de l'implanter dans un quartier de Fort-de-France, qui est le quartier des béquets, c'est-à-dire des colons. C'est un quartier quasiment marqué par une sorte d'apartheid, quoi, parce qu'il n'y a que des colons, à l'époque, qui habitent là. Et il implante au milieu de ce quartier, alors qu'il a sa réputation déjà subversive, hein, c'est quelqu'un qui a été un militant de l'anticolonialisme, etc. Donc il décide de mettre ça là, mais ce n'est pas de la provocation pour lui, c'est qu'il veut faire avancer les consciences et il va toujours se méfier d'une approche trop doctrinale des choses. Il va créer, en fait, dans le sillage de l'IME, une revue, c'est ACOMA, et en fait, c'est une revue qui est un assemblage de chercheurs en sciences sociales qui finalement rentrent dans son sillage pour essayer de faire cet inventaire du réel, hein, c'est-à-dire savoir ce qu'est l'entrée dans la société de consommation à cette époque-là, qui est quelque chose de vertigineux, parce qu'il y a l'effondrement de la société sucrière, et puis on entre brutalement dans la société de consommation. Donc il y a des sociologues, des anthropologues, des historiens qui sont regroupés autour de cette revue-là. Et puis, c'est une revue qui va fonctionner jusqu'en 73 environ. Et à partir de là, donc il continue son œuvre. Hein. Il a écrit en 1959 l'intention poétique qui a une importance considérable et qui a un lien particulièrement avec Soleil de la conscience. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en 80, dans cette décennie qui va aller de la fin des années 60 à, la fin des années 70, c'est vraiment le moment d'observation de la société antillaise chez Glissant. Et c'est là qu'il fonde tout le corpus qu'il va développer en 81 dans le discours antillais. Voilà. Mmh. Alors, pour sa biographie, en 81, il est appelé à l'UNESCO. Il devient le directeur, un directeur très marquant jusqu'à présent. On s'en souvient. On était hier à l'UNESCO. La trace de Glissant est encore très importante. Il devient directeur du courrier de l'UNESCO. Et il mène une évolution de la revue très marqué sciences humaines, véritablement, et il multiplie, je me souviens qu'il me disait ça avec beaucoup de fierté, les éditions linguistiques, les traductions de la revue. Il me disait que c'était passé de 30 à 50, enfin, il était très fier. Voilà.
Peut-être juste, tu peux dire un petit mot sur cette œuvre qui est centrale, tu l'as dit, que le discours antillais, ouais, de 81, ouais, et qui est aussi une œuvre complètement fascinante, parce qu'elle correspond à aucun code universitaire, à aucun code intellectuel. C'est une œuvre qui mêle à la fois de la psychologie, de l'anthropologie, de l'histoire, de la poésie, et qui assume ça, qui revendique ça comme une méthode, totalement, en fait, adaptée justement à cet inventaire du réel antillais, et comme la seule méthode, en fait, adaptée, c'est-à-dire que aucune des disciplines acceptées par le canon universitaire ou même par les classements intellectuels classique ou habituel, ne permet de saisir ou de capter effectivement ce réel antillais, cette histoire, cette absence d'histoire, au contraire, de l'esclavage, et glissant, du coup, présente un texte qui est, c'est pareil, c'est pas un petit texte pour le coup, le discours antillais, il y a plusieurs centaines de pages, et qui croise comme ça, et qui multiplie comme ça les approches, voilà, on attaque le sujet par un bord, puis par un autre, puis on croise, et puis on revient et puis on réessaye autre chose, on retente, on revient, on reformule ce qu'on a dit précédemment. C'est, et c'est un texte qui, de ce point de vue-là, est assez unique.
Il est complètement unique, mais tu ne vois pas si bien dire, c'est-à-dire que quand tu dis que c'est un texte qui est atypique, c'est qu'en réalité, il est tellement atypique qu'en fait, c'est une thèse à l'origine. C'est une thèse.
Et qui va déborder.
Qui va déborder, mais même la thèse elle-même, elle déborde déjà. À tel point que lors de la soutenance, on se pose la question, à la fin de la soutenance, finalement, c'est une thèse de quoi ?
Oui, c'est une bonne question, du point de vue universitaire.
À l'origine, ça devait être une thèse, alors il avait hésité, philo, linguistique, parce qu'il parle beaucoup du créole, oui, etc. Ouais. Et on dit finalement, ça se rapproche le plus d'une thèse d'anthropologie.
Voilà. Oui, c'est vrai que c'est...
En somme, ce qu'il va faire, c'est que quand il va publier le texte au Seuil, il va encore accentuer ce côté, non pas fourre-tout, mais côté qui est fondé sur une idée chez lui, exactement comme tu l'as dit, c'est que ce réel qui est une énigme quasiment, on ne peut pas l'approcher selon ce qu'il appelle les disciplines héritées. Alors, il appelle ça comme ça, et il dit on ne peut l'approcher que par la transversalité. C'est-à-dire en prenant différents points de vue, c'est pour ça que dans le discours antillais, il y a à la fois de la sociologie, il y a à la fois de l'histoire, mais vraiment de l'histoire. Il y a à la fois de la psychologie. Il y a des notions de psychanalyse qui viennent dans la dernière partie du livre, qui sont très importantes. Donc c'est tout ça à la fois. Et il y a évidemment de la littérature. De manière très, très, très inattendue à certains endroits, où après des développements théoriques, brusquement, il y a des choses qui sont poétiques, et donc, mais qui ont un sens.
Et il y a de la politique.
Il y a de la politique, évidemment. Parce que quand il parle d'histoire, quand il parle de sociologie, évidemment, ce sont des enjeux qui sont directement politiques pour la société dans laquelle il se trouve, qui est une société qui souffre de manque. En fait, le texte commence par ça. Il énumère les manques et les hiatus, les problématiques qu'il y a d'identité. Le Martiniquais, pour lui, ne sait pas qui il est, il ne sait pas qu'il forme un peuple, à la limite, il ne cherche même pas à créer un peuple. C'est tous ces manques-là qui sont à la base.
On va y revenir ça après, parce que c'est évidemment c'est central là-dedans, dans son œuvre. Et donc, je t'ai coupé là, parce que on était autour de 1980, tu disais.
Alors oui, à 81, il va donc à l'UNESCO, il va donc rester à l'UNESCO jusqu'en 88. En 88, il va être appelé à l'université de Baton Rouge, LSU, à Baton Rouge, où il va devenir
en
Louisiane, donc on l'accueille véritablement comme quelqu'un de très important. Il va devenir au terme de sa carrière universitaire ce qu'on appelle distinguished professor.
Et là, juste par curiosité, en fait, il est invité dans quel département pour le coup ?
département de littérature francophone, d'accord. C'est-à-dire de littérature, de civilisation et de littérature francophone. Okay. Ce qui va se passer, alors ça, quand je te parle de ça, forcément c'est un sujet que tu connais très bien parce que tu as fait un article remarquable sur Faulkner, Mississippi. Il devient à cette époque-là l'un des spécialistes de William Faulkner. C'est-à-dire que c'est un écrivain qu'il a toujours pratiqué, mais le contact avec le lieu même où tous les personnages de Faulkner évoluent, c'est-à-dire la Louisiane, pour lui, c'est quelque chose qui est d'une importance considérable, et il y a ce texte qui va donc être publié au Stock, chez Stock en 94, Faulkner à Mississippi, et dans lequel il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Non seulement c'est une étude de Faulkner, mais c'est quelque chose qui déborde quasiment l'œuvre de Faulkner. Voilà. Alors le début des années 90 est surtout marqué par deux livres d'une importance considérable. C'est 90, Poétique de la relation. Alors la Poétique de la relation, on peut le dire, c'est avec le discours antillais l'essai le plus important de Glissant, qui est même un peu plus complexe parfois à comprendre parce qu'il est moins didactique, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Mmh. Et puis, en 92, il va publier un roman, mais est-ce qu'on peut appeler ça un roman? Je ne sais même pas. C'est-à-dire que c'est tout à la fois. Il disait que c'était un tourbillon. C'était sa logique, c'était celle du tourbillon, c'est tout le monde, le roman tout le monde. Ouais. Et là, c'est un foisonnement de réflexion, de poésie, de narration, très, très, très chargée, très, très signifiante. C'est-à-dire, c'est pas de la littérature pour faire joli, quoi. On n'est pas dans ça du tout. On est vraiment dans des enjeux narratifs qui sont, à chaque page, considérables. Par rapport, par exemple, à la mémoire de l'esclavage, on peut y venir pour l'une des mentions narratives de tout le monde, mais c'est des choses qu'il faut vraiment lire avec beaucoup, beaucoup d'attention, vraiment. Il ne suffit pas de dire que c'est un tourbillon, parce que ça, c'est... Il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans en croyant comprendre. Ils disent, c'est foisonnant. Mais ce n'est pas foisonnant, c'est signifiant, surtout.
Oui, voilà. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Je trouve que tu mentionnais tout à l'heure le roman qui le fait connaître, au moins en métropole, et reconnaître en tout cas en métropole, qui est La Lézarde, avec le prix Renaudot qu'il a. Entre ce roman-là, qui est de 57, tu l'as dit, c'est ça ?
58.
58. Oui. Et le tout le monde, justement, c'est aussi tout un pan de l'histoire de la littérature, en fait. Et d'une certaine manière, c'est un peu aussi un homme littérature, Glissant. Je trouve que tu as quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il digère aussi, si tu veux, l'histoire et les courants littéraires de son temps et les intègre, d'une certaine manière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un côté un peu, presque... Je dirais obèse, mais pas dans un sens péjoratif, mais il y a quelque chose comme ça de cumulatif et une espèce d'appétit à intégrer comme ça.
Absolument.
Les courants, les esthétiques, les questionnements, les styles narratifs. Et effectivement, dans tout le monde, tu as cette espèce d'effet-là. Donc il ne s'agit pas de lire simplement ce roman-là pour lui-même, effectivement, pour ce joyeux tourbillon littéraire, un peu comme. Mais il y a cette perspective-là qui est assez fascinante aussi, je trouve.
Il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis. Évidemment, je ne dirais pas du tout une relation pour le jeu, quoi, pour le jeu littéraire d'épouser les mouvements de son époque. C'est plus précis que ça, et c'est plus passionnant que ça. Glissant, évidemment, depuis les années 50 et jusque à la fin des années 80, il est face à la modernité qui est en train à la post-modernité qui est en train de s'affirmer en littérature. C'est le nouveau roman quand il commence, etc. C'est bon. Eh bien, ce qu'il dit, c'est que c'est une chance pour ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que ce qu'il a à dire est tellement particulier que ça ne peut se dire que comme ça, en fait. Par exemple, le roman, pour lui, il est inconcevable qu'on puisse faire un roman. Tu vois, encore La Lézarde, c'est quelque chose qui est d'une narration classique. Le IVe siècle, déjà un peu moins, mais c'est encore une narration, on va dire, qui va d'un point A à un point B. Tout change avec Malmort. Alors, Malmort, c'est un objet littéraire non identifié. Pour l'époque, ça déconcerte beaucoup de gens qui disent « Non, ça c'est pas pour nous, c'est pas pour les Antillais, en tout cas, on n'a pas besoin de ça. » Or, il a tout mis là-dedans. Il a tout mis dans Malmort, et il a épousé la modernité parce que ce qu'il avait à dire, encore une fois, ne pouvait être dit que de manière diffractée. Par exemple, ce qu'il dit sur l'histoire normalement, ça ne peut être dit que comme ça.
Oui, et comme tu dis, alors bon, c'est parce que c'est difficile de parler de romans en général, que les gens n'ont pas forcément lu, etc. Mais notamment, avant qu'on termine sur sa biographie, le travail qui est fascinant là-dedans, c'est la manière dont il va, tu l'as dit, écrire de manière diffractée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de travail sur la déchronologisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chronologie au sens large, donc ni sur les événements, ni sur la péripétie, ni sur le récit, mais tu as aussi ça du point de vue à l'échelle des personnages, je dirais, c'est-à-dire que les personnages sont eux-mêmes déchronologisés.
Totalement.
Et du coup, ça va lui permettre une espèce de jeu permanent, comme ça, entre les moments, entre les époques, entre les périodes, entre les moments personnels aussi incarnés par les personnages, justement. Oui. Et ce jeu-là, effectivement, est assez, assez troublant. Alors, c'est pas le seul, évidemment, à explorer ce type d'approche-là, mais comme tu dis, effectivement, on sent qu'il y a cette espèce de coïncidence entre ce travail-là, de romancier notamment, et le fameux réel antillais.
Oui, dont il parce est que justement,
il y a
une pleine cohérence dans cette démarche-là. Ouais. Quand il dit dans le discours antillais que finalement l'énonciation de l'histoire, qui est une énonciation coloniale, c'est un leurre, il appelle ça le leurre chronologique. Eh bien, ce qu'il va faire dans ces romans-là, c'est qu'avec la déstructuration justement qu'il propose, il montre par la narration même, que ça n'a pas de sens de découper les choses en périodes. Hein. Il préfère...
De manière linéaire,
voilà,
de manière
continue, totalement. Et il fait voir des choses qui sont, là encore une fois, on va y venir, anthropologiques. C'est-à-dire, comment on ressent le temps quand on est intime.
Alors, juste pour terminer cette espèce de panorama très rapide, beaucoup trop rapide sur l'œuvre de Glissant, peut-être quelques mots sur la fin de son œuvre qui est plus axée sur une période souvent qualifiée de plus essayiste, on va dire. Alors, tu vois, notamment sur le traité du tout monde, par exemple. Donc, tu as parlé de la politique de la relation. Il y a une philosophie de la relation également. Ouais. Et c'est aussi des textes qui, là, alors, paraissent à première vue comme ça plus essayistes ou plus conceptuels, mais qui, comme tu disais tout à l'heure, intègrent aussi, faire attention effectivement à ces lectures immédiate parce que ce sont des textes qui intègrent tout le travail effectivement romanesque, poétique et anthropologique dont tu as parlé précédemment.
Oui. Hein. Il y a philosophie de la relation, ça c'est 90, et puis il y a ce qu'on appelle effectivement dans les années 2000, ce qu'on appelle les derniers essais. Ils sont d'une précision redoutable. C'est la Cohée du Lamentin en 2005, c'est une nouvelle région du monde en 2006, et puis il y a deux moments particuliers, c'est que Glissant est conscient que son œuvre est très étudiée à partir de la fin des années 90. C'est vraiment un phénomène. Il y a des thèses qui se multiplient, des congrès un peu partout, etc. Et il veut, non pas donner un digest, mais expliquer les choses de manière synthétique, pour ce qui est de sa pensée. Et alors il va faire deux essais pour cela, Introduction à une poétique du divers, en 96, qui est en fait une compilation de conférences, et puis Philosophie de la relation, que tu as cité, en 2009, je crois me souvenir que c'est ça. Et alors, en fait, là, il fait une sorte d'inventaire, quasiment, de ces différentes notions. Il appelle ça des pensées. Il y a la pensée du tremblement, la pensée de la mondialité, la pensée de l'archipel, la pensée archipélique, et il définit, il donne des définitions qui évidemment ne sont pas des définitions ce sont des définitions ouvertes sur son œuvre. Mais il a cette volonté de donner des outils en fait à ses lecteurs, c'est ça. Et en fait les années 2000, c'est ça, c'est une reconnaissance mondiale, c'est une reconnaissance qui fait que beaucoup de gens exigent quasiment qu'il ait le Nobel, mais Glissant ne cherche pas ce genre de choses là. En réalité, il est non seulement reconnu, mais il a la conviction qu'il n'est pas lu en entier. Et il dit ceci, l'essentiel de ce que j'ai écrit, c'est pour après. On va le voir après. Et ça, il le sait. Et c'est pas un manque d'humilité. Hein. Il sait que c'est par la suite qu'on va prendre conscience. Ce n'est que maintenant qu'on commence à lire vraiment tout cela.
Et il y a aussi, sur ces années-là, un enjeu qui émerge de manière très très forte, enfin, il est là depuis le début, mais qui, en tout cas, publiquement, en tout cas, fait sens, c'est l'enjeu de la mémoire.
Ah oui. Ah oui, fondamental. Alors ça traverse toute son œuvre. La mémoire, c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire que c'est la réappropriation de l'histoire. C'est l'enjeu...
Et de l'histoire de l'esclavage.
L'histoire de l'esclavage. Mmh. Et dans les années 2000, étant donné que l'essentiel des propos à cette époque-là par rapport à à l'histoire et à la façon de vivre l'histoire, c'est la question mémorielle, il va dire qu'en effet, tout ce qu'il a montré par rapport à l'histoire, c'est pas simplement de faire appel à une nouvelle méthodologie historique pour la discipline historique, mais c'est la réappropriation et une façon de vivre ce drame qui est si considérable pour la conscience antillaise, qui est l'esclavage. Donc il va écrire effectivement un rapport qui lui est demandé par le gouvernement parce qu'on veut, veut construire un centre. Il propose l'édification d'un centre de mémoire de l'esclavage qui est devenu finalement la fondation pour la mémoire de l'esclavage aujourd'hui, après beaucoup d'atermoiements, mais finalement ça a abouti. Et donc il écrit ce rapport qu'il va publier chez Gallimard qui s'appelle « Mémoire des esclavages ». Voilà. En 2007, me semble-t-il. Voilà.
Bien. Il meurt
en 2011, avec des problèmes de santé, mais il est clair que Glissant a mené son œuvre jusqu'au bout. Alors, une petite précision, c'est vrai que dans cette dernière partie de l'œuvre, il ne faut pas croire que c'est uniquement les essais, parce qu'il y a deux romans qui sont, mais dont les enjeux sont démesurés, mais vraiment démesurés par rapport à l'œuvre, c'est Sartorius, d'abord. L'année m'échappe. Mais je vais le dire tout de suite. Sartorius, c'est en 99, me semble-t-il. Voilà. Et Ormerod, en 2003. Alors ça, ce sont des romans qui drainent des enjeux considérables. L'écriture est... On croit qu'elle est cryptée, mais en fait, tout est écrit. Donc il faut être très attentif. Mais ce sont deux romans qui ont une importance vraiment singulière dans toute son œuvre.
Bon, on va peut-être faire une première pause musicale. On reprendra donc avec toi, Loïc, autour des deux tomes là, de ton livre, Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage. On fait une première pause avant de continuer.
Merci, bon Dieu. Gade tu sala na tu pote punu. Vesi bondie, gade kumala mizethi ni punu. Vesi bondie, gade kusala na tu pote punu. Vesi bondie. Gade kumala mizefi ni punu. La pli tumbe, ma ipuze. Tuti moki gongo, braile moje. Ano danse Congo, ano danse Petro. Papa bondia dinazie la meze vini punu. Mize ya vini punu, mize ya vini punu. Mise a vini buno, mise no vini. Merci bon Dieu, gardez tout ça là, na tout pote buno. Merci bon Dieu, gardez kuma la mise fini buno. Merci bon Dieu. Gade tu sala na tu pote puno. Vesi bondie, gade kumala mize fini puno. Ha! La pritumbe, ma ibuze. Tuti moki gongo, prele moje. Ano danse Congo, ano danse Petro. Papa bon Dieu dit nazie la mise veni buno, mise a vini buno, mise a vini buno, mise a vini buno, mise nu vini. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature pour te puno. Merci bon Dieu.
Bon. Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie, consacrée ce soir avec un invité et au livre de cet invité. Donc on accueille Loïc Seyry pour les deux tomes de son livre qui s'appelle Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage. Et on vient d'écouter à l'instant un morceau de Harry Belafonte qui s'appelle Messie Bondier. Et donc tu peux peut-être nous dire quelques mots, Loïc, puisque tu disais que c'était un morceau qui avait une particularité, comme souvent dans les morceaux créoles, d'être crypté.
Ah oui. Et ça, c'est très important de le mentionner dans une émission sur Glissant, parce que en fait, c'est un exemple de ce que lui, il appelait le différement. Parce qu'une chanson comme celle-là, on peut se dire, bon, c'est une chanson assez légère. Finalement, il y a un côté humain qui est marquant, qui est même émouvant. C'est une action de grâce. Hein. Merci bon Dieu. Voilà, en somme, c'est une chanson haïtienne. La misère est finie pour nous. Maintenant, nous pouvons donner à manger aux enfants, etc. Tout va bien. En réalité, quand on regarde cela de plus près, c'est un chant révolutionnaire. Donc, ça n'a aucun rapport avec une action de grâce. Mmh. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce que Glissant appelle le différemment. C'est-à-dire que le créole cache les choses pour mieux les exprimer, mais dans ce qu'il appelle le différemment. C'est-à-dire que c'est un palimpseste de sens. En fait, c'est Roland Casséus qui a écrit le texte de Messie Bondier, interprété brillamment par Harry Belafonte, qui est mort il y a quelques jours. En fait, Messie Bondier, il y a deux termes qui font vriller le sens de la chanson. C'est en nous danser Congo, en nous danser Petro. Et en fait, il se trouve que en créole haïtien et en Haïti, les danses Congo et Petro, ce sont des danses d'appel à la guerre, d'appel au soulèvement. Donc, en réalité, quand on reprend le texte, à ce moment-là, avec ces deux significations-là, on comprend que le coach parle, en fait.
Le code change.
Mais complètement. Mmh. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit quasiment d'une vision métaphorique, je le dis, de la séance de Bois Caïman, c'est-à-dire qui est à l'origine de la révolution haïtienne. Lorsque tous les chefs Dessalines, Pétion, Toussaint, se réunissent, et c'est une séance vaudou, en fait, et vont danser, justement, tous les gens qui assistent à ça, le Congo et le Petro, ce sont des danses d'appel à la guerre, et c'est ce qui donne naissance. Là, il est connu en termes historiques que la séance de Bois Caïman, c'est le début de la révolution de Saint-Domingue. Donc là, il y a une inversion du sens qui fait beaucoup penser à ce que Glissant écrit. C'est-à-dire, Glissant, il faut décrypter le sens. Il faut retirer les choses qui nous paraissent évidentes. Et là, on découvre des choses, mais qui sont mises volontairement, hein. Parfois dans des termes. Alors, c'est pas du tout, c'est pas mal armé, quoi. C'est pas fait pour faire de l'art avec un grand A. Non, c'est parce qu'il y a un sens là-dedans. Il y a un sens et ça correspond au créole. Le créole, c'est ça.
Alors, peut-être que ça nous amène du coup à ce deuxième temps de notre émission. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure à propos de ton livre, là, Loïc, Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage. C'est un livre, et c'est l'approche que toi, tu choisis volontairement pour lire l'œuvre de Glissant, une œuvre qui est assez colossale, on en a eu un aperçu. Toi, tu choisis en fait de lire cette œuvre comme une œuvre qui serait tout entière liée à ce que tu appelles une matrice, en fait, une matrice. C'est-à-dire, alors, quelque chose qui va plus loin qu'un thème, c'est-à-dire que c'est à la fois l'objet de réflexion de l'écrivain Glissant, quelque chose d'obsédant, pourrait-on dire, mais c'est pas simplement un thème extérieur ou un thème ou un prétexte à réfléchir ou un objet historique ou un objet universitaire sur lequel il travaillerait comme ça de manière un peu extérieure. Il y a derrière... Difficile de préciser toutes les dimensions de cette notion-là, mais il y a un travail de connaissance, d'exploration de soi-même, d'exploration historique, de création artistique également, sachant qu'on ne peut pas dissocier tout ça. C'est-à-dire que tout ça va en même temps. Il y a une dimension qui est aussi immédiatement politique dans ce travail-là.
Tout à fait.
Et on a quelque chose qui relève à la fois de l'exploration artistique, littéraire, poétique, de l'entreprise de connaissance. C'est absolument central.
Absolument.
Et il s'agit de rendre compte de ce que Glissant lui-même désigne par le terme de réel antillais. Mmh. Et ce réel antillais, c'est un réel, tu l'as dit, qui est essentiellement absent, crypté, et qu'on ne peut d'une certaine manière approcher ou essayer d'approcher qu'en cryptant ce caractère crypté, je dirais. Alors, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de repérer toutes les stratégies de dissimulation ou de camouflage qui ont été mises en place par les esclaves ou les descendants d'esclaves, notamment par la langue créole, mais aussi par toute une série de formes de vie, de comportements qui sont propres, effectivement, à cette réalité de l'esclavage, de cette réalité historique de l'esclavage caribéen. Oui. Et donc il faut à la fois comprendre effectivement ces stratégies, je dirais, de camouflage ou de cryptage, et en même temps aussi comprendre comment ces stratégies sont simplement en partie stratégiques et comment elles sont aussi en partie subies. C'est-à-dire, en fait, comment effectivement cette monstruosité historique, en fait, morale, juridique, ce travail de déshumanisation sur plusieurs siècles, quand même, comment ça a à la fois conduit à des stratégies de résistance, de réaction, de camouflage, de dissimulation, et en même temps, une fondamentale aussi désappropriation aussi de soi-même. Et il y a ces deux dimensions chez Glissant. Ah oui. À la fois identifier les stratégies et en même temps essayer de pointer, de dire ce qui manque. Alors, si tu permets, peut-être, j'ai peut-être cité, alors, c'est pas Glissant, mais c'est un des grands lecteurs de Glissant quand même, puisqu'il s'agit de Chamoiseau. Mmh. C'est des extraits que tu cites récemment, et c'est vrai que chez Chamoiseau, il y a souvent des formules comme ça, très pédagogiques, il me semble. Je vous dis deux mots sur ce que Chamoiseau appelle la mémoire obscure, peut-être, qui renvoie, alors, c'est une des manières, effectivement, de comprendre ce réel antillais, c'est-à-dire, et ce réel antillais dans ce qu'il manque, effectivement, dans la manière dont il peut. Alors, je lis rapidement, donc c'est dans le deuxième tome, tu le cites toi-même, ce passage de Chamoiseau. Donc, c'est un petit texte, La mémoire obscure, qui est remarquable pour le coup de concision, qui est lié à une certaine édition. Hein,
oui, c'est sorti en fait. Ça a été publié par Gallimard dans une édition en coffret des quelques textes qu'il a consacrés à l'esclavage, c'est-à-dire L'esclavium et le molosse, et puis Dimanche au cachot. Il y a un petit fascicule qui reprend ces textes-là.
Alors, donc tu le cites et puis on reviendra un petit après là-dessus. Donc, La mémoire obscure, donc je cite là cet extrait de Chamoiseau. Mais sous ce silence transgénérationnel, nous nous sommes retrouvés ancrés dans l'esclavage lui-même, écrit Chamoiseau. Sur ce socle impalpable, l'esclavage en nous est demeuré actif. Le silence n'élimine pas le crime que l'on a subi, ne l'atténue pas, ne le transforme pas. Il le laisse intact, virulent et nocif dans les esprits et dans les chairs. Il l'installe dans la communauté. Le crime subi devient alors un informulé, un non-dit, qui déploie ses assises ou même ses tentacules dans les espaces de l'ombre. Le silence génère une mémoire inconsciente, une mémoire obscure. Ainsi, nos sociétés antillaises, nos cultures américaines, nos identités mosaïques sont traversées et structurées par des dynamiques qui proviennent de la période esclavagiste et qui se maintiennent par la mémoire obscure que nous en conservons. Cette mémoire obscure de l'esclavage et de la traite rôde encore dans nos paroles les plus anodines. Elle s'est installée dans nos orgueils et nos susceptibilités. Elle s'est profilée dans l'arrière-fond de nos contes, de nos chansons, de nos proverbes, de nos titimes. Elle a émergé dans nos formulations de manière détournée, furtive, étranglée ou secrète, mais toujours opaque et permanente. Elle est active dans l'intimité de nos chairs, de nos organisations sociales et de nos esprits. Mmh. Un extrait assez spectaculaire de Chamoiseau.
Tout à fait.
Alors, c'est une des manières de comprendre la complexité de ce réel antillais, peut-être.
Moi, il y a déjà une chose que tu me permets de faire et qui est remarquable là, parce que ça, je saute sur l'occasion, c'est de clarifier finalement l'intention que j'ai eue en faisant cette espèce de pavé assez effrayant. C'est que, en fait, c'est pas un thème que j'aborde du tout. Et tu l'as dit. Parce qu'en fait, il s'agit pas de réduire Glissant à un thème qui serait l'esclavage, qui serait pour lui une sorte d'obsession. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. En fait, quand on parle de réel antillais, depuis tout à l'heure, on parle de quoi, en fait? On parle de... Il y a un mot qui revient, mais finalement, ce mot, il faut le définir. L'esclavage, c'est quoi? C'est pas un phénomène de production, c'est pas une époque uniquement de l'histoire, c'est ce que Moss appelait un fait social total. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui définit l'être. Il y a plus de temps dans l'histoire antillaise d'esclavage que de post-esclavage. T'as déjà ça. Il y a que l'abolition, c'est depuis 1848. Ce qui veut dire que cette société est issue de cette matrice déjà là pour elle-même. Mais ce que je voulais faire, en fait, c'était pas du tout de ramener Glissant à un thème, c'est de bien montrer que ce qu'on appelle l'esclavage, c'est finalement le réel antillais. C'est-à-dire que c'est pas simplement, encore une fois, ça, c'est vraiment ce réel-là. Et en réalité, la question de la matrice permet de comprendre, et c'est pour ça que pour moi, il s'agissait pour moi de donner par l'exemple ce que je pense de la façon dont il faut aborder cette œuvre-là, c'est-à-dire comme un tout. Une matrice, ça permet de comprendre comment cette œuvre-là est un tout où tous les genres et tous les livres et toutes les mentions se répondent les unes dans les autres. Donc c'est un univers où tout est cohérent et où tout dialogue avec tout. Et c'est pour cela qu'en l'occurrence, quand on étudie ça, on est face à un sens qui apparaît dans l'évolution de l'œuvre et dans sa diversité de genre. C'est ça la matrice. C'est ça la matrice. Et Glissant, il fonctionne comme ça. On en parlait, on ne peut pas comprendre Glissant, par exemple, si on se fonde sur ses essais. Et ça, c'est un très, très, très grand malentendu. C'est-à-dire que, étant donné que l'œuvre est très étudiée par les sciences humaines aujourd'hui, il y a même la géographie nouvelle qui étudie la notion de territoire chez Glissant par rapport à l'espace, etc. Enfin, il est inépuisable pour les sciences humaines et les sciences sociales. C'est normal, il vient de là. Eh bien, on se fourvoie si on se fonde uniquement sur les essais. Et généralement, les chercheurs en sciences sociales, ils vont directement vers les essais. Mais oui, mais le problème, c'est que la lecture, elle devient carrément paraplégique, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas, accès vraiment à Glissant, là. Du tout. Et je peux donner des quand je dis ça, on a l'impression que je fais non, c'est pas un effet de parole, hein. C'est que je peux donner des exemples précis. Quand par exemple on parle tu parlais de dépossession de l'histoire, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'oblitération de l'histoire. Ça, c'est quelque chose de tellement difficile à expliquer dans un essai qu'il le dit dans le discours antillais. Il dit l'antillais, pour beaucoup de raisons historiques, déjà parce que au lendemain de l'abolition, il y a eu par exemple, le gouverneur qui a proclamé l'abolition en Martinique, Rostolan. Il a fait un discours le lendemain, hein, de l'abolition, en disant à tout le monde, eh bien, chers amis, maintenant il va falloir oublier.
On en reparlera. Ça, c'est absolument fascinant. Voilà. C'est un des grands temps forts de
c'est un fait historique.
C'est un fait historique. Mais les documents sont absolument extraordinaires. Avec une espèce de politique de l'oubli imposé.
Tout à fait.
L'abolition de l'esclavage, c'est ça.
Et je vais te dire, ce qui pour moi est le recours, si tu veux, par rapport à ça, c'est de m'appuyer sur les travaux d'historiens qui se sont appuyés là-dessus. Parce que ça a pu être contesté. On s'est dit, oui, mais enfin bon, c'est qu'un discours. Bon, mais non, c'est pas ça. Historiquement parlant, l'éducation nationale aux Antilles, c'était un travail de... Il fallait travailler l'oubli, quoi. C'est-à-dire, il fallait dire à tout le monde, maintenant, vous êtes des citoyens. Vous êtes des citoyens à égalité. Donc, en fait, la République vous a libéré. Et d'ailleurs, regardez, c'est Schœlcher, c'est un Français qui vous a libéré. Donc, en réalité, il y a des historiens, par exemple Myriam Cotillas, qui ont étudié cela de très près, en disant qu'il y a une politique de l'oubli.
Oui, il n'y a pas d'autre terme que ça. Hein.
Cette politique de l'oubli, alors, ça n'a peut-être absolument rien à voir, donc tu me dis si je suis leur sujet, mais ça me rappelle cette obligation de l'amnistie après la guerre civile à Athènes.
Mais j'en ai parlé en fait. Hein.
Ah d'accord, je sais.
Donc on est au cœur du sujet.
D'accord.
On est au cœur
avec
du
cette
sujet.
Idée qu'il y avait justement une guerre civile, et donc après la guerre civile, il faut passer à autre chose. Et donc il faut une loi d'amnistie.
Absolument.
Sauf que là, c'était une guerre civile, en fait, elle aussi niait.
Oui, tout à fait. Il y a un jeune historien qui a étudié exactement ça. Et moi, je le cite parce que c'est le même phénomène, en fait. C'est le phénomène de décréter qu'il y a un oubli, parce qu'il y a des raisons politiques pour ça, il y a des raisons pour l'abolition. Il faut fonder le nouveau citoyen, la citoyenneté, mais c'est un leurre. Ouais, c'est ce qu'il appelle un leurre. C'est-à-dire que c'est une décision coloniale, finalement.
Alors, on va revenir, peut-être, je me permets d'assister et revenir sur le réel antillais. Je voudrais te lire un autre passage de Glissant, mais juste là-dessus, sur cette politique de l'oubli, on y reviendra, parce que pour moi, c'est aussi un des points très importants de ton livre. Effectivement, il s'agit de faire l'inventaire du réel antillais, oui. Sauf qu'effectivement, ce que tu montres aussi très bien dans ton livre, et là, je pense qu'il y a y a matière à de nombreux prolongements, c'est qu'en fait, c'est pas simplement le réel antillais, c'est-à-dire que le réel antillais, il est pas séparé du réel métropolitain.
Du tout.
Et donc, en fait, c'est pas simplement une amnistie post-guerre civile dont il s'agit. Et tu le montres très bien, notamment lorsque tu cites les extraits de ce fameux texte de Renan qu'on cite sur le plébiscite de tous les jours.
Le vouloir vivre, c'est le vivre ensemble.
La fondation, non seulement de la République, du républicanisme français, et peut-être même une des fondations du nationalisme républicain français, repose sur cet oubli, pas simplement de l'esclavage, mais essentiellement de la période esclavagiste.
Oui, oui.
Donc c'est quelque chose qui est absolument fondateur dans l'histoire de la métropole impériale républicaine française.
C'est lié à la lecture de l'histoire, c'est-à-dire c'est les enjeux
absolument.
De la lecture de l'histoire.
Mais voilà. Le réel antillais est une des clés les plus fécondes, en tout cas, pour comprendre effectivement l'histoire de la République française. Voilà. Alors juste, je referme ça, mais on va y revenir, parce que ça donne une idée de la mesure des enjeux que ça pose en termes justement de compréhension et de connaissance historique, hein, je pense. Et l'œuvre de Glissant, et la manière dont tu l'abordes, me semble-t-il. Pour revenir à cette question de la dépossession, du manque, ou la spécificité du réel antillais, je me permets de citer, alors c'est pareil, hein, je reprends ça dans ton livre, on est là, page 88, donc tiré de Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage, dans le premier tome, tu cites ce passage de la Poétique de la relation,
oui.
Où ce texte nommé La barque ouverte, qui reprend et qui condense justement avec ce style propre à Glissant la spécificité de l'expérience historique de l'esclavage aux Antilles et au-delà. Alors je lis l'extrait. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'être, provenue de tant d'incroyables guéhennes. Supposez 200 personnes entassées dans un espace qui à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions, déportés pendant 2 siècles et plus. L'usure, plus sempiternelle qu'une apocalypse, mais cela n'est rien encore. Le terrifiant est du gouffre, 3 fois noué à l'inconnu, 1 fois donc, inaugurale, quand tu tombes dans le ventre de la barque. Une barque, selon ta poétique, n'a pas de ventre. Une barque n'engloutit pas, ne dévore pas, une barque se dirige à plein ciel. Le ventre de cette barque-ci te dissout, te précipite dans un non-monde où tu cries. Cette barque est une matrice, le gouffre matrice, génétrice de ta clameur, productrice aussi de toute unanimité à venir. Car si tu es seul dans cette souffrance, tu partages l'inconnu avec quelques-uns que tu ne connais pas encore. Cette barque est ta matrice, un moule qui t'expulse pourtant, enceinte d'autant de morts que de vivants, en sursis. Alors, peut-être 2 mots de commentaire sur cet extrait-là.
Et ben, on est au sommet, je crois, là, parce que tu disais qu'il y a l'enjeu par rapport à la question de la dépossession. En fait, quand il constate dans le discours antillais qu'il y a une dépossession de leur histoire, dépossession, ça veut dire vraiment que soi-même, on a un sentiment d'oblitération en soi. Bon, il en découle que la littérature va devoir assumer des enjeux que généralement elle n'a pas à assumer, et voilà, donc c'est une redéfinition quasiment des enjeux de la littérature. Là, on a affaire à un texte qui est lié à sa vision, une vision très complexe à expliquer. C'est pour ça que moi j'ai renoncé à l'expliquer, à la définir. J'ai essayé de la définir 7 fois dans le livre. C'est la vision prophétique du passé, c'est-à-dire que ce texte, c'est l'une des modalités de ce qu'il appelle la vision prophétique du passé. En fait, c'est la vision de l'anamnèse. C'est la modalité de l'anamnèse. Glissant, qu'est-ce qu'il fait dans ce texte-là ? Dans ce texte-là, il se hisse au niveau quasiment d'un voyant. C'est-à-dire, il va dire ce qui se passait dans la cale du bateau négrier et sur un bateau négrier. Mais ce n'est pas une intuition. Ce n'est pas simplement une intuition poétique, on va dire, de créateur, comme ça, qui veut donner une image singulière ou frappante. Non, c'est vraiment une représentation au sens profond de ce que ça doit être pour la personne qui veut se réapproprier les choses. Ce qui est raconté là, finalement, ne peut pas être raconté par l'histoire. C'est-à-dire que le drame de cette histoire-là, c'est qu'il y a une barrière de l'archive. On va y venir sur cette question-là. Et là, il y a très peu de témoignages sur ce qu'était réellement la traversée, ce qu'on appelle le passage du milieu. C'est-à-dire, c'était un drame, c'était véritablement une barbarie complète, et dont sont issus les Antillais. Donc, en fait, il s'agit de dire, figure-toi que c'était ça. Et alors ça, je vais te détailler ça, mais tous les détails que Glissant donne là, on peut les retrouver chez des historiens, notamment américains et anglais, parce que c'est surtout eux qui ont travaillé sur les données des navires négriers, etc. C'est compliqué à faire, mais ils l'ont fait. Et ce sont des choses qui ne sont pas, si tu veux, exagérées, ce sont des choses réelles. Bon, mais surtout dans ce texte-là, la vision prophétique du passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait le lien avec celui, la personne qui va lire ça. Figure-toi que tout cela, c'est la situation dans laquelle, c'est celle dont tu es issu, quand tu dis tu as été confronté à des gens que tu ne connaissais pas. C'est précisément ça, c'est-à-dire qu'il y avait des ethnies différentes, on les mettait, ils étaient différents pour qu'ils puissent pas communiquer entre eux. Et on se méfiait particulièrement des Igbo, parce que les Igbo, ils se suicidaient en avalant leur langue. Bon. Et en fait...
Par vérition, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et, ah oui, mais c'est l'immobile vérition. Alors là, on peut rentrer dans ça, c'est la fin du cahier de retour au pays natal. Et alors là, c'est le fait de lier ça, de dire tu es issu de ça, mais ça veut dire que quoi? Tu es dans une barque. Alors là, c'est quelque chose d'immense chez Glissant, c'est la notion du gouffre. C'est une notion qui est à la fois une visualisation d'une réalité, et puis c'est une notion qui est une notion philosophique, en fait. Une notion philosophique qui a un rapport direct avec une contestation de Hegel, c'est-à-dire que c'est une nouvelle dialectique dans laquelle on rentre. Et on sent, je suis sûr qu'on va y revenir, mais c'est la dialectique du devenir. C'est ça qu'il a voulu dire là, c'est-à-dire que les Antillais sont obligés de partir de là, de partir de cette réalité-là, pour savoir qu'il ne faut pas remonter avant, ils ne peuvent pas remonter avant. Et c'est ça la différence avec la négritude. Il ne faut pas remonter à l'Afrique, il faut remonter au gouffre.
Il n'y a pas d'origine.
Non, l'origine...
Il n'y a pas de pays natal, il y a un gouffre natal.
C'est ce qu'il appelle la digenèse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de genèse, il y a une digenèse. Et c'est-à-dire qu'il y a une genèse qui est ouverte sur beaucoup de choses. Tu ne peux pas faire ce que Alexa Lé propose dans Racine, dans Roots. C'est-à-dire retrouver le village dont tu es issu, etc. Et puis il y a Kunta Kinte qui vient, il y a une filiation. Il dit que pour les Antillais, ce n'est pas possible. Simplement parce qu'il y a une barrière. Il faut constater cette barrière. C'est constater cette barrière dans la tête, c'est un drame, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun registre paroissial qui pourra dire je suis issu de cette région, de ce machin. C'est pas possible.
Ça te casse, ça te casse, ça te brise ton rapport au temps.
Ça te brise.
Et ça le brise à l'échelle de l'histoire, ouais, de la population antillaise, à l'échelle de la communauté antillaise et à l'échelle, y compris personnelle, individuelle.
Et puis c'est un effort quasiment pour la personne même, en termes psychologiques, de se dire qu'on est issu de d'un gouffre. On est issu d'un gouffre. On est issu de quelque chose qui était la précarisation de la vie, quoi. Donc, on est issu de ce drame-là. Voilà. Donc, ça.
Et de la déshumanisation. C'est pas juste de la précarisation.
De la précarisation. Alors, quand je parlais de la précarisation, voilà, c'est l'arrivée sur l'habitation. C'est-à-dire, l'habitation, tu peux mourir pour rien, quoi. C'est-à-dire, il suffit de contester quelque chose. Bah, c'est fini, terminé. Donc, c'est ce que Césaire dit un peu dans son cahier de retour au pays natal. La vie d'un nègre ne valait rien, quoi, en fait. Mais strictement rien. C'était un meuble, puisqu'en l'occurrence, c'est ce que définissait le code noir. Eh bien, il dit tout ça, et la vision prophétique du passé, là, qui se joue, c'est la modalité d'anamnèse qui dit qu'à la fin, tu es dans cette barque-là, et tu y es toujours, en fait. C'est-à-dire que tu es dans un devenir. Tu ne peux pas dire, je bénéficie de cette histoire et je vais rien en faire. C'est pas possible. Tu es obligé d'en faire quelque chose. Et c'est ça le devenir chez lui, c'est une notion absolument essentielle. Voilà.
On va peut-être marquer une deuxième pause avant d'en venir à ces questions-là qui sont complètement passionnantes là sur le rapport de Glissant autant à la mémoire et à l'histoire. Les trois niveaux sont juste chez lui. Donc on revient autour de ton livre, Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage. Mais avant ça, on fait une pause musicale.
Merchant ships. minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, et c'est Jeudi Noir qui continue pour sa troisième partie, un peu plus longuement que d'habitude, mais parce qu'on a un invité ce soir qui mérite amplement cette émission exceptionnelle. On accueille avec joie ce soir Loïc Seri pour les deux tomes de son étude assez monumentale intitulée « Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage ». Et qui est consacré donc à une certaine approche et une certaine interprétation de cette œuvre du grand écrivain antillais Édouard Glissant. Alors on a parlé pas mal à la fois de sa vie de Glissant, de son œuvre, du réel antillais dans la complexité du manque et du gouffre qui le fonde, hein, et qui intéresse, qui est central pour toute l'œuvre de Glissant. Je voudrais peut-être maintenant qu'on vienne avec toi, Loïc, qu'on parle un petit peu des rapports de cette œuvre de Glissant, qui est à la fois romanesque, poétique, philosophique, psychologique, donc de toutes ces dimensions-là avec l'histoire, puisque tu l'as dit, la question de l'histoire de l'esclavage et de la mémoire de l'esclavage, de ce que cette histoire dépose, et de la manière dont elle est encore active, hein, dans la mémoire à la fois personnelle et collective aussi, des Antilles et de la République française. Donc comment ça s'articule chez lui ce lien? La particularité de Glissant, c'est d'essayer
enfin, ce qu'il affirme, c'est pas une particularité, c'est une thèse, c'est que pour comprendre ce réel antillais, ou pour essayer de le comprendre, il faut avoir recours à une poétique, en réalité, c'est-à-dire à la fois aux ressources du récit, de la narration, à des métaphores, qui sont pas des métaphores uniquement ornementales, ou des métaphores gratuites, ou uniquement pour la... oui, ornementales, qui permettent, effectivement, parfois, de comprendre ce manque, de saisir, d'apprendre des choses. Et là, sa thèse, c'est qu'il n'y a que comme ça qu'on peut justement contourner tous les écrans qui empêchent, par les discours habituels de l'histoire chronologique, de la périodisation chronologique, du recours aux archives, de la définition habituelle chronologique aussi des faits, toutes ces méthodes qui sont celles habituellement de l'historien, en disant les choses vite, hein, mais c'est quand même ça l'idée, d'après Glissant, risque à chaque fois de renforcer l'oblitération de l'histoire de l'esclavage, de ce réel antillais-là, qui, lui, a pour particularité de ne pas se présenter en plein, ou sous la forme de faits, ou d'archives, parce que les traces, ça, c'est au contraire quelque chose auquel il tient beaucoup. Et ce réel antillais, il se présente toujours en creux, pourrait-on dire, hein, en creux, ou par absence, ou par code, ou par camouflage, effectivement, comme tu le dis. Et seule la poétique peut permettre de faire ça. Alors, je donne quelques exemples, ensuite je te laisse développer là-dessus, mais par exemple, il insiste beaucoup sur l'importance de penser en termes de traces, ce qui ouvre à l'imaginaire, au récit, à la fiction, qui brouille un petit peu cette frontière qu'on trace habituellement entre la réalité et la fiction. La trace est quelque chose qui permet d'accéder par un travail poétique à la compréhension de ce réel antillais, beaucoup plus que l'archive, qui est le matériau sur lequel travaille l'historien habituellement. Donc il faut se débarrasser de toute conception positiviste, pas pour rentrer dans une espèce de vision obscurantiste ou spéculative. Autre piste peut-être, on en parlera un petit après, c'est il y a tout un travail pour démonter la chronologie et remplacer la notion de période, notamment par celle de pan. C'est quelque chose qui revendique aussi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, peut-être d'abord sur cette question, sur le rapport de la trace à l'archive?
Oui.
Il y a des extraits aussi qu'on pourra citer éventuellement pour comprendre l'enjeu.
Il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que là, on est à l'épicentre de tout ça. Et de ce que je veux écrire, c'est l'enjeu fondamental. C'est-à-dire, le rapport à l'histoire, c'est finalement le rapport au réel. C'est ça. Parce que l'histoire, c'est une définition extensive qu'il en a. En fait, c'est pas l'histoire avec des dates qui s'enfilent les unes les autres. C'est véritablement l'appréhension du temps. Donc, déjà, première chose, je crois qu'il faut être clair sur la notion de poétique chez Glissant. C'est pas la poésie. C'est même pas, on peut dire, une espèce de surenchère vers l'intuition. C'est pas ça. En fait, contre la pensée rationnelle.
Discursive, voilà, ou logique. Voilà. Quoi qu'il y a certains extraits où parfois on se demande, mais...
On se demande, parce qu'il fait rivaliser les choses volontairement. Mais en réalité, c'est la pensée. Donc, c'est la définition de la poétique... quasiment qui remonte à Aristote, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la pensée, mais dans ce qu'elle a de vraiment transversal. C'est-à-dire que voilà, je dis poétique, mais je ne dis pas poésie, et je ne dis pas uniquement démarche uniquement rationnelle, parce que donc c'est la pensée dans ce qu'elle a d'intégral. C'est ça, en fait.
C'est qu'il y a à la fois du rationnel, il y a à la fois de la logique, et il y a du métaphorique aussi.
Alors, la
métaphore qui elle-même, enfin, la métaphore ou l'image,
c'est dans l'expression, c'est le recours, c'est l'outil. Mais en fait, ce qu'il dit est très précis. C'est-à-dire que la trace, par exemple, c'est pas du tout une notion faite pour le roman, pour la poésie, pour le théâtre. C'est une notion qui est faite pour l'historien.
Je me permets de te couper. Est-ce que d'abord, tu peux nous en dire plus? Pourquoi on peut pas, lorsqu'il s'agit de l'histoire des Antilles, mais particulièrement de l'esclavagisme, et donc ça va au-delà simplement des Antilles, pourquoi on ne peut pas faire confiance à l'archive comme on le fait habituellement dans le métier d'historien quand on fait de l'histoire?
Mais il y a deux faits. C'est que d'abord, l'archive écrite, elle est issue de l'acteur colonial. C'est-à-dire que c'est toujours l'archive coloniale qu'on a face à soi. Donc on n'a pas cette on n'a pas cette parole, on n'a pas cette cette réalité qu'on veut prendre en compte de manière globale. On a le prisme colonial.
Donc on va avoir par exemple des actes de vente, on va avoir par exemple des listes numériques du nombre de déportés ou d'esclaves dans tel bateau,
non
on va avoir des livres de comptes, on va avoir, voilà.
Non seulement ça, mais regarde par exemple la chose récente. En 2015, il y a eu quasiment une révolution épistémologique dans l'histoire de l'esclavage en France. C'est que on est dans une situation totalement dissymétrique par rapport à ce qu'on appelle le domaine anglais. Il y a ce qu'on appelle, en Angleterre et aux États-Unis, les slave narratives. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves qui ont écrit des textes sur leur expérience. Plus ou moins aidés, etc. Machin, mais ils ont écrit des textes. Ça n'existe pas dans le domaine français. Mais ce qu'on a découvert, ce qu'on a exploité en tout cas en 2015, c'est les archives des procès qui étaient parfois intentés par des esclaves à leur maître pour mauvais traitement. Je ne sais pas si tu imagines ce que peut-être dans ce domaine-là, un mauvais traitement, où c'était quotidien. Mais il y se trouve qu'à l'approche de l'abolition, l'administration coloniale avait ouvert une brèche, c'était la possibilité pour un esclave, dans beaucoup de conditions, de contester le sort qui lui était réservé. Mais ces archives-là, ce sont des minutes de procès. Donc c'est le procès, c'est mené par l'administration coloniale. Donc rien que l'accès à la parole, c'est une transcription de l'accès à la parole que nous avons. C'est pas la parole en tant que telle. Voilà. Donc en réalité, ça c'est déjà un problème parce que l'archive, elle est coloniale, mais il y a surtout la barrière. C'est-à-dire, non seulement la barrière temporelle d'aller avant la déportation, ça c'est évident, mais il y a la barrière anthropologique et humaine. C'est-à-dire qu'on a affaire à une population qu'on appelle une population servile. On le dit, hein, c'est un terme historique, population servile. Et puis ça va de soi, quoi, le terme, c'est population servile. Mais quelle était la vie de ces gens-là? Quelle était leur façon de subsister? Alors tout ça, ce sont des choses qui sont apparues après. Et donc, ce que Glissant a dit a été prouvé par l'évolution historiographique par la suite. Parce que quand on a par exemple découvert qu'il y avait des jardins, que les gens avaient leur petit lopin de terre, ça s'appelle le jardin créole. Mm-hmm. Mais c'est toute une pensée, c'est une façon de protéger ce qu'on a, parce qu'ils dissimulaient ça, c'est une façon de faire fructifier sa propriété, entre guillemets, dans un univers dans lequel tu n'as aucune... Tu es toi-même la propriété.
Donc, une espèce de propriété clandestine.
Mais ce que je te dis là, c'est uniquement parce qu'il y a des historiens qui ont fait ce que Glissant a fait, c'est-à-dire ils ont fait de l'anthropologie, quoi.
Oui, t'as pas de trace de ces jardins, évidemment.
Il n'y a pas de trace, mais quand tu vas, tu prends les gens, tu les écoutes. Écoute, la langue créole, c'est une trace anthropologique. Nous disons des choses, tu sais, demande à un Antillais comment il va, s'il te dit qu'il ne va pas bien, tu sais ce qu'il dit? Mon cap en fait, ça veut dire. Et il ne sait pas lui-même le sens de ce qu'il dit. En français, ça veut dire « je suis dans les fers ». Est-ce que tu te vois un peu? C'est-à-dire que la trace, c'est pas une notion, comment dit-on, imaginaire. C'est quelque chose qui est là. Quand tu prends ça, tu te dis « mais mon Dieu, moi-même, je n'ai pas réalisé ». Et puis, il y a plein de déclinaisons. Hein. « Mon cap en fait »,« mon cap en y en fait ». Ça veut dire « je prends le de ces fers ». Tu t'imagines qu'à la base, il y a un type donc, qui a dit... En créole, j'étais dans les fers. Hein. Alors, il y avait toute une gamme. Hein. Les fers, on te les mettait au cou. Tu avais des trucs comme ça. Tu avais des fers partout. Alors, évidemment, avec le code noir, on te coupait la jambe si tu essayais de partir. Enfin, il y a une fleur de lys, etc., qu'on te gravait. Enfin, ça, c'est la vie de l'habitation. Donc, que tu as accès par le langage, tu as accès à ça. Alors, imagine tout ça. Je donne l'exemple du jardin créole, etc. Mais enfin, tu as tout ça. La danse. Mais enfin, attends, hier, on était en train de faire une commémoration de l'abolition de l'esclavage, on dansait ce qu'on appelle le damier. Enfin, le damier, c'est la capoeira, c'est l'équivalent de la capoeira. Mais enfin, c'est l'expression d'une... C'est la préparation de la révolte, en fait. Donc, ils sont en train de se battre entre eux parce qu'ils préparent la révolte. Mais ça, c'est un fait massif, hein, c'est un fait historique. Parce que tu ne peux pas comprendre les révoltes d'esclaves qui n'ont jamais cessé, hein. Au cours des 4 siècles.
Sans cette espèce d'entraînement, de gymnastique, de résistance.
De gymnastique, voilà. Comment ils pensaient les choses, etc. Et ça, c'est de l'histoire. Et avant Glissant, j'ose le dire, sans faire de manière de coupure artificielle. Mais il a eu, même en 81, quand il écrit, il a affaire encore à un univers historiographique qui est un univers d'historiographie coloniale.
C'est-à-dire qu'il n'y fait jamais mention de tout, justement, des exemples que tu viens de citer, qui sont des exemples, pour le coup, typiques de ces notions de traces, de dépôts. Et ça, ça suppose effectivement aussi une espèce de révolution méthodologique.
Mais c'est exactement ça.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller en bibliothèque ou sur le fond de...
Non, non, notre bibliothèque, c'est justement le vécu.
Le vécu, la langue.
C'est-à-dire que quand tu as des gens qui sont dépossédés de l'accès même à l'écrit, puisque tu sais, les esclaves n'avaient pas le droit d'apprendre à lire, c'était considéré comme extrêmement subversif, sauf qu'il y a certains qui réussissaient parce qu'il y avait notamment des ecclésiastiques qui leur apprenaient à lire. Il y a des anecdotes sur ça qui sont absolument incroyables, mais il se trouve que ces gens qui n'avaient pas accès, il faut essayer de comprendre quelle était leur vie et comment ils faisaient pour s'exprimer. Et le conte, il y a des enjeux fondamentaux, parce que tout est exprimé là-dedans. Il y a même des contes qui racontent la traversée transatlantique. Il y a des contes qui gardent la trace à travers cette Atlantique. Et on a l'impression que ça a été fait par des poètes ou bien par des linguistes, etc. C'est-à-dire qu'il y a des pans qui sont laissés en silence. Incroyable ça, quand on a ça. C'est-à-dire le compteur s'arrête et puis il reprend après. Donc tu vois, tu as la symbolisation dans le truc même qu'il y a un drame qui se dit. Mais ça s'appelle une littérature orale, ça. C'est pas un conte, celui-là, c'est pas faire joli. C'est un phénomène massif de civilisation. Et Glissant, quand il dit ça, alors il va représenter ça, parce qu'il le dit dans le discours antillais, mais il sait que c'est encore discursif. Il va le représenter dans, notamment, c'est la case du commandeur. Il va représenter ce qu'on appelle le conte du poisson-chambre.
Alors, t'as des pages...
C'est incroyable.
Des morceaux de bravoure, là.
Mais c'est-à-dire qu'il faut essayer de reprendre ça, parce qu'il y a des enjeux mais colossaux. Alors, pour revenir à ça, il dit que simplement, lui, Glissant, en fait, il appelle à une réforme de la méthodologie historique. Il dit, bon, déjà, il faut arrêter avec l'histoire coloniale. Vous vous leurrez si vous continuez comme ça. Vous vous leurrez si vous croyez que toute l'histoire va pouvoir être dite à base d'archives, puisque l'archive, encore une fois, elle est déficiente.
Il n'y a pas de matériaux. Il
y a un moment où il n'y a pas de matériaux. Mais tu sais, j'ai donné deux exemples sur ça, parce que, encore une fois, il y a plein de modalités. Mais quand tu arrives à des faits historiques qui sont massifs, c'est-à-dire par exemple pour ce qu'on appelle les révoltes marronnes dans la Caraïbe. Il y a la fameuse, je consacre certaines pages à la bataille de Rabaud.
Bien sûr, dans Ormerode.
Dans Ormerode, et ça c'est donc, on est bien après le discours antillais, on est dans les années 2000. Glissant sait que, ce dont il parle là, personne, quasiment, n'en a entendu parler. C'est-à-dire, vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup des héroïnes féminines. Hier, nous étions au jardin de la mulâtresse Solitude, qui avait été mise en avant par André et Simone Schwarzbart. On parle de Lumina Sophie, pour la révolution à la fin du 19e siècle en Martinique. On parle de certaines héroïnes, effectivement, de l'histoire guadeloupéenne et de l'histoire martiniquaise, des grandes figures féminines. Mais vous allez dire Flore Gaillard. Alors évidemment, maintenant, ça a changé un petit peu, parce que depuis que Glissant a parlé de ça, et puis depuis que certains historiens se sont penchés là-dessus, Flore Gaillard est quasiment pas connue. Alors que Flore Gaillard, c'était l'une des chefs, c'était la chef marronne. C'est une femme qui avait constitué ce qu'on appelle l'armée française des bois à Sainte-Lucie. Et c'est une femme qui a été aidée par les armées, par les armées révolutionnaires, par Victor Hugues, qui a raccourci tout le monde en Guadeloupe, hein, et puis par Delgrès et Pelage, qui lui ont donné en 1795 un grand soutien pour combattre les Anglais. Les Anglais ont perdu. Donc une armée faite de gens qui ont des coutelas, qui défend une armée de gens qui ont des canons. Il y a un truc qu'il faut déjà essayer de comprendre. Et c'est le même phénomène avec la révolution de Saint-Domingue. Hein. Ça, c'est en 1795. Donc il y a une énergie qu'il faut comprendre là-dedans. Mais simplement, quand il représente Flore Gaillard dans Ormerode, il sait qu'il représente quelque chose qui a été passé totalement sous silence. Alors là, on est vraiment dans l'oblitération. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Alors il le fait, comme tu le sais, avec beaucoup d'adresse, parce qu'il dit... Alors oui, ok, moi j'ai dit pendant toute mon œuvre que face à ça, il faut faire de l'exploration créatrice. C'est ce qu'il avait dit dans le discours antillais. Il faut C'est l'une des modalités de la vision prophétique du passé, faire de la reconstitution, comme un romancier d'histoire le fait. Il imagine comment ça s'est passé. Ben oui, quand on lit la bataille de Waterloo dans Les Misérables, ben oui, c'est une œuvre d'imagination, fondée effectivement sur des faits historiques, etc. etc. Il le fait, et puis il fait intervenir, dans le récit, un historien, qui est un historien classique, qui s'appelle Lavin Ray, et qui va dire, mais oui, mais ce que vous racontez là, vous, Apocal et Godby, puisque c'est Godby et Apocal qui sont porteurs de cette espèce de manière de dire, mais c'est ça qu'il nous faut, il nous faut reconstituer les choses. Oui, mais enfin, qui vous prouve que ça s'est passé comme ça? Et eux, ils disent, oui, mais ça nous prouve parce que nous avons l'intuition, etc. Donc lui-même, il est en train de se moquer de la propre chose qu'il a menée pendant une partie de son œuvre. Il dit, ce réel historique-là, il est tellement oblitéré que finalement, il est inatteignable. Il nous faut savoir simplement qu'il y a une femme qui s'est appelée Flore Gaillard, qui a mené une armée de nègres marrons, mais nous ne pouvons pas, par exemple, reconstituer la bataille de Rabaut. On ne sait pas. Voilà. Donc, ni par l'intuition, ni par les faits, puisque de toute façon, les faits ne sont pas, on ne peut pas les établir. Donc voilà, c'est une sorte d'impasse à laquelle il parvient dans Ormerod. Mais il y a un autre cas qui est très très très...
Et sur ce cas-là quand même, il faut peut-être deux mots là-dessus, parce que tu l'as restitué, tu as un dispositif quand même de récit qui est très sophistiqué,
ouais.
Où effectivement, tu as d'abord cette espèce de lancée où on reconstitue par l'imaginaire, par la fiction, comme si, un peu voilà, Fabrice à Waterloo, voilà, on y va... Oui, sauf que Fabrice à Waterloo, on peut faire une étude historienne de la bataille de Waterloo. Il y a des traces, il y a des archives, il y a des commandements, il y a des dépêches, on pourra faire des fouilles, on pourra retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un soubassement, je dirais, voilà, de positif, archivique, je ne sais pas comment il faut dire, quel est le mot, qui permet effectivement, du coup, au romancier de s'abstraire de ça et de jouer avec ça, et de jouer de la distance à ce quelque chose qui existe, à ce quelque chose positif qui existe.
C'est ça.
Dans le cas de la bataille du Rabaut dont tu parles, c'est précisément ça qui est vertigineux. C'est qu'on retrouve le gouffre dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas. Ce substrat-là sur lequel est censé travailler l'historien.
Or, c'est essentiel.
Et c'est évidemment fondamental. Et comment il essaie de déjouer en quelque sorte cette absence-là. Alors, par le récit, il y va quand même, il imagine. Hein, il imagine, donc, il raconte. Et en même temps, il imagine un dispositif comme ça qui est à la fois. Qui relève un peu du conte. En même temps, il y a quelque chose du dialogue un peu socratique là-dedans. C'est un conte philosophique, mais pas classique, pas au sens où on raconterait une histoire qui aurait un sens caché ou une moralité. Non, il y a cette espèce de dispositif-là qui est, au fond, la bataille du Rabaut, telle qu'on peut la connaître au sens fort, je dirais, ben c'est ça. Ça va être le résultat de ça. C'est-à-dire à la fois cette espèce de tentative de l'imaginaire par la fiction, la mise à distance critique de cette fiction par, justement, la mise en scène de l'historien positiviste classique, qui relativise effectivement ce travail-là. Et en même temps, ce qui est surtout intéressant, c'est l'ensemble des deux. Et on a effectivement... Et la connaissance historique la plus complète qu'on puisse espérer, d'une certaine manière, de cet événement-là, qui est central, comme tu le dis, elle est là, d'une certaine manière. Et du coup, il y a à la fois, voilà, il n'y a pas ce substrat sur lequel travaille l'historien habituellement, si on veut rendre compte de ce qui s'est passé du point de vue des hommes qui ont fait cette histoire-là, qui ont été, voilà, malgré les tentatives de déshumanisation qu'ils ont subies, etc. Et il y a effectivement aussi cette espèce de manque des... Peut-être que tu peux en dire aussi quelques mots, de manque des catégories de récits habituels qui permettent, on revient à la question de la chronologie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ces événements-là, comme le substrat n'est pas là, comme les archives sont trompeuses ou partielles, on ne peut pas périodiser, on ne peut pas organiser dans une succession comme ça d'événements, de temps, de périodes. Alors peut-être juste deux mots là-dessus, peut-être avant de faire une petite pause. Deux mots sur cette notion de pan, du coup, qui l'oppose. Non, bon, bah, oh, d'accord. On se fait. Voilà. On me dit. Voilà. On me dit que je parle trop. On me dit qu'on est au bord de la. Voilà. Peut-être donc on se fait une petite pause et puis on reviendra.
C'est la fin là.
Ah, on a terminé. Bon. Très bien. Bah, alors, on peut peut-être terminer là-dessus.
Oui.
On peut peut-être terminer là-dessus. Donc, voilà. Donc, peut-être sur cette notion de pan, donc opposée aux périodes historiques, pour qu'on puisse mesurer justement tout ce que ça implique en termes de remise en question de la méthode historienne habituelle, peut-être.
Alors, c'est vrai que ça, c'est dans le discours antillais. Il dit, période et pan, moi je propose quelque chose. Alors ça a amené beaucoup de quiproquos, hein, parce que les historiens se sont dit, ah oui, d'abord, oui, c'est intéressant, mais M. Glissant ne se rend pas compte que les pans, ça n'a pas véritablement d'existence historique, etc. Et puis il y en a d'autres qui, avec le temps, se sont rendus compte que c'était une redéfinition de la chronologie à laquelle il fallait qu'ils travaillent véritablement, et ils ont travaillé. Le problème, c'est que même ceux qui ont travaillé ont cru que Glissant les attaquait et disait quoi ? Que l'histoire n'est pas possible dans le contexte colonial. C'est l'un des quiproquos les plus lamentables que je trouve, parce que moi j'ai essayé de démontrer que c'est totalement faux. Là-dessus, je voudrais être clair. Les gens qui, en l'occurrence en Martinique et en Guadeloupe, dans la littérature antillaise, ont pu dire ça, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas atteignable et que c'est la littérature qui va pouvoir atteindre, c'est pas Glissant. Ce sont des gens qui se sont inspirés de lui, mais Glissant n'a jamais dit ça. Glissant a fait appel, il était entouré d'historiens à l'IEM, il était entouré d'historiens, donc il a fait appel à une refondation. Mais il l'a fait effectivement avec une certaine rudesse, ça je le reconnais, quand on voit certains passages de du machin. Bon, mais il avait face à lui l'historiographie coloniale, encore. Donc, il a fait appel à ça, et c'est un souhait. L'affaire de Pan, en fait, c'est une manière de voir que les découpages, on ne peut pas les calquer sur l'histoire française, c'est pas possible, puisqu'il y a déjà une redéfinition du temps. C'est cette fameuse histoire du temps éperdu, dont j'ai passé plein de pages là-dessus à parler de ça, mais la notion de temps éperdu, c'est... alors là, vraiment, on est proche du génie, là, parce qu'on est dans la pensée de l'histoire, on est dans la philosophie de l'histoire, alors qu'il s'en méfie, hein, il veut pas faire une nouvelle philosophie de l'histoire, mais on est en fait dans ça, et on est dans une manière, encore une fois, de ramener à l'anthropologie, c'est-à-dire de ramener à la façon dont on vit ça. C'est une béance. C'est-à-dire que l'Antillais, c'est pas seulement la dépossession du récit, c'est qu'il vit une béance du temps. Il vit quelque chose qui est étiré. Et en fait, quand je dis ça, on a l'impression que je parle de choses qui se sont passées. Non. C'est encore là. C'est-à-dire que quand, dans Malemort, il va te dire « Qu'est-ce que c'est, le temps est perdu ? C'est quoi ?» Je vais vous donner un exemple, hein, si vous voulez. C'est la partie centrale de Malemort, ça s'appelle « Tombé levé ». Qu'est-ce qu'il raconte ? Depuis le marronnage, jusqu'à l'époque où il écrit, c'est-à-dire 75, hein, Malemort, il y a des révoltes, et puis après on retombe. On se révolte, on retombe. C'est un cycle. C'est un cycle qui n'en finit pas. Il appelle ça « tomber et se relever ».« Tomber levé ». En créole. Et c'est le nom d'un taxi aussi. Hein, c'est le nom de taxi collectif, de tomber levé. Mais en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que les personnages qu'il représente là-dedans, il y en a trois. Dlan, Médélus, Silacier. Et bien, ce sont des gens qui parcourent le temps. Ils sont à la fois des marrons, ils sont à la fois témoins, donc ça lui permet de raconter, c'est le seul, en 75, qui a raconté les grandes grèves de Chalvet. En 1974, les gendarmes, pas l'armée, hein, même pas, les gendarmes français, peut-être inspirés par ce qui se passait au Vietnam, attaquent quasiment au napalm. Vous avez des travailleurs de la banane sur le plateau de Chalvet, à Basse-Pointe, en Martinique.
Tu as des photos d'archives qui sont complètement...
Il y a des photos invraisemblables.
Avec les gendarmes qui circulent en camion.
Voilà, en 2009, on a échappé à ça parce que... Il faut reconnaître qu'il y a eu quand même un ministre qui a mis le houla, parce que les colons, les descendants de colons, hein, ils avaient aussi encore le réflexe de s'en référer au préfet, comme ils l'avaient toujours fait, pour pouvoir mettre fin au mouvement de grève qu'il y avait.
Du camarade.
Voilà. Donc en fait, c'est ça le tombé levé. C'est le fait qu'on ressort jamais du cycle. Voilà. Et il faut penser ça. Il faut penser qu'on est dans un temps qui est perdu. Il faut penser dans un truc qui est cyclique. Et c'est ça qui fait qu'il faut penser par pan. Alors c'est ça qui permet de... Quand on va dans Malemort, on comprend tout de suite ce que c'est que le pan dans le discours antillais. Voilà.
On va peut-être s'arrêter là-dessus. Je suis à la fois très, très triste qu'on n'ait pas pu parler davantage de ça, et en même temps très content parce que ça va nous donner l'occasion de te réinviter une prochaine fois pour nous parler de Glissant encore, puisqu'il y a tellement à dire sur lui. Donc aujourd'hui, on a parlé des deux tomes de ton œuvre, Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage. Et donc, on remercie Loïc Séry pour cette émission tout à fait passionnante, et on lui dit à très bientôt.
Eh ben, merci, à très bientôt. Thank you.
chansons venues. Les grands chaos s'en sont venus.
Les grands carreaux sont sur la place.